Georges Anglade, bonjour. C'est un plaisir de vous
Bonjour.
retrouver sur les antennes de Magique 9. Comme maintenant c'est devenu une habitude, nous allons discuter de l'hebdo que vous publiez tous les mardis dans le Nouvelliste. Cette émission sera reprise ce jeudi entre 5h et 6h sur le 100.9 et dimanche à nouveau entre 5h et 6h, toujours sur Magique 9. 36e hebdo, c'est les boules de l'État. Et on va finir par rouler toutes les boules de l'État, Georges Anglade. C'est la cinquième prise. Du gouvernement à la gouvernance, de 10 expectatives à 10 chantiers. Pendant toutes les discussions que nous avons eues sur les boules de l'État, aussi bien nous avons pu voir les difficultés de trouver les bonnes expectatives, parce que des fois on pose la problématique, mais ce n'est pas la bonne ou bien ce n'est pas celle qui est la plus pertinente. Mais nous avons vu aussi que c'était encore beaucoup plus difficile d'arriver au chantier, de faire les bons chantiers pour sortir du quotidien. Parce qu'un chantier, c'est quelque chose d'exaltant, c'est quelque chose. Enfin, c'est assez grand, alors que le
Oui,
quotidien, c'est ce qui nous occupe.
c'est la grisaille, c'est le quotidien. Oui, il faut arriver au chantier, il faut passer des expectatives, des attentes de tout le monde, de monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, et pour arriver aux grands chantiers qui vont être mis en place. Et c'est effectivement les dernières boules de l'État, c'est la prise 5 que vous avez en main. Et les 10 expectatives, c'est de dire, bon, comment va-t-on mettre au travail, si vous voulez, tout un gouvernement ou tout un pays, à partir d'un ensemble de points très précis dont nous comprenons très bien que ces thèmes qui sont proposés sont les leviers qui nous permettent à la fois de changer Haïti, mais à la fois d'être à la hauteur de l'Haïti qui change. Parce que dans le même moment, c'est très dialectique, dans le même moment où le pays a changé, le pays a changé profondément, dans le même moment aussi, il faut gouverner pour que continue ce changement. Donc c'est cette seule manière d'entrer dans cette nouvelle Haïti au tricentenaire. En avions-nous les moyens? Mais si que nous les avons, ces moyens. Nous sommes en train de voir que nous avons les ressources humaines et matérielles, les possibilités de ce changement, pour peu que nous ayons la volonté de ces changements, pour peu que nous ne nous mettions pas en quoi contre ces changements, pour peu que nous n'ayons pas une politique absolument réactionnaire, c'est-à-dire contre la dynamique en cours actuellement. Donc, c'est ça aussi que présentent des 10 expectatives. Qu'est-ce qu'on peut attendre des 10 missions de l'État que nous avions ainsi définies à la fin, après tout le processus que nous avons suivi en 36 hebdos, et leur traduction en termes de ministères que nous avons repris, et si vous voulez, là, à quoi parvenons-nous? Nous parvenons à la formulation des expectatives et des chantiers. Mais de façon, avec une exigence, je dirais quasi électorale, il faut que la définition des expectatives et des chantiers soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse en discuter et qu'il soit accessible à tout le monde dans les termes dans lesquels tout le monde le pose. Au fond, ces expectatives et ces chantiers sont à définir par le peuple lui-même. C'est lui qui dit et qui traduit. C'est un acte de terrain, c'est lui qui dit et traduit ce qu'il veut entendre et de la bouche de ses dirigeants. Et le problème actuel que nous avons avec cette non-écoute du gouvernement des cris du peuple, c'est ça aussi, c'est que les responsables ne parlent pas la langue du peuple, le langage du peuple. Il faut que les expectatives soient traduites dans ce langage-là et cette langue-là.
D'accord, tout à fait. Mais en même temps, vous aussi, vous prenez un risque. Proposer des chantiers, Georges Anglade, c'est compliqué, ça.
Ah, mais c'est le risque de toutes tes réflexions, c'était le risque assumé dès le départ, puisque ayant choisi et accepté le défi et le pari du Nouvelliste de tenir une rubrique hebdomadaire, non pas sur le macramé, non pas sur le point de croix, mais sur penser le tricentenaire, eh ben, il y avait ce pari de devoir être significatif. Et c'était ça l'enjeu également, c'est-à-dire vient un moment où une parole stratégique, puisque c'était ça, on a parlé de seigneurs, on a parlé de ces hommes dans le dernier quart de leur vie, et arrivés à ce niveau de seigneurité, de la sixième génération sur leur retour, sur leur finale, sur leur dernière ligne droite, et bien ceux-là doivent parler et dire chacun en ce qui le concerne et la contribution et la lecture qu'il apporte aux autres générations qui viennent. Et chance énorme pour notre structure de population actuellement, La chance est non, mais que nous avons enfin des pyramides d'âge complète. C'est-à-dire, nous avons des penseurs de 80, 70, 60, 50, 40. C'est-à-dire, nous avons reconstitué complètement toute la pyramide d'âge et qu'à tous les niveaux d'âge et qu'à tous les tranches d'âge, à tous les niveaux d'accumulation, de séniorité et de vieillissement et de maturation, tout vous voulez, vous avez des gens qui ont travaillé chacun en ce qui le concerne. Donc, on n'est plus dans la problématique d'autrefois où il y avait toute une partie de la pyramide qui avait été tronquée. Là, on peut trouver cette réflexion-là, actuellement.
Ah, mais Georges Anglade, nous allons profiter de la chance que nous avons de vous avoir pour essayer de vous faire... vous allez essayer de nous expliquer un peu mieux. PNH versus FADH.
Ben voilà. Et dans les... ben oui. Et c'est moi qui ai la chance d'avoir les auditeurs et les auditrices que j'ai là. Et puis, je vais en profiter pour leur dire deux ou trois choses. Et PNH versus FADH. Première mission. Nous avons vu que dans les missions de l'État, la première des missions était une mission de souveraineté et c'était les internalités, les externalités. Les internalités de la responsabilité, si vous voulez, de la mission de souveraineté présidentielle donc, étaient, c'est le ministère de la Défense des Corps armés de la Sécurité nationale, il y a une responsabilité interne. Comment formuler l'ensemble des besoins ? Comment formuler l'ensemble des préoccupations que nous avons sur la sécurité ? Sur les corps armés en général, sur la défense du territoire, sur la souveraineté de ce territoire. Donc, tout ce qui ça va toucher aux internalités de leur rapport. Eh bien, on peut réduire tout ce débat-là dans la langue populaire par un choix de base, de qui tout le reste va dépendre d'ailleurs. De ce choix va dépendre tout ce qu'on va faire. PNH versus FADH. Ou bien, on fait de la police nationale, l'institution qui, par adjonction de corps complémentaires et spécialisés, répond à l'ensemble des besoins nationaux, et à aucun moment on ne crée d'autres forces armées que la police nationale, et puis si on est terminé de forces armées d'Haïti, où quelqu'un peut dire « je veux au nom de qui et au nom de la Constitution, mais finalement au nom de l'armée protectrice des minorités aussi, avant toute chose, c'est ça que ce langage cache », le retour à l'armée. Et il y a deux positions possibles, c'est-à-dire ou c'est le PNH ou c'est l'armée. Pas de mitoyenneté. Alors, c'est un point sur lequel il faille choisir. Et en des termes que tout le monde comprend. Alors, est-ce qu'on s'en tienne à cette police nationale que l'on va mettre sous surveillance, par vetting aussi, expulsion de tous les voyous dedans, etc. En même temps, l'armée en tant que concept, l'armée en tant que structure, c'est terminé. Bon, voilà. Donc voilà un débat, voilà une issue, voilà une expectative dans laquelle on va faire un grand chantier. Évidemment, le chantier, une fois mis là, va avoir plein de questions secondaires. C'est les trafics en tout genre, c'est la MINUSTAH quand elle s'en va, c'est la sécurité, c'est la déportation des criminels des États-Unis et du Canada. Toute cette somme de choses va découler de ce premier choix, qui est le choix fondamental PNH versus FADH. Comment se branche-t-on là-dessus ? Voilà.
Les FADH, enfin, quelque part, plus de 13 ans après que l'armée a été débandée, en quelque sorte, enfin, tout le monde est à la retraite au FADH, enfin, presque tous. Est-ce que c'est encore le nom qui est en discussion ? C'est la chose ?
Non, c'est la fonction. Il y a plein de gens, enfin, plein de gens. Non, je pense que, et le rôle que joue l'armée en termes de protectrice de la minorité, il y a plein de gens qui tiennent beaucoup à une armée qui les protégerait de cette crainte qu'ils ont, très justifiée d'ailleurs quand on est dans une petite minorité, d'avoir une grande masse qui déferle sur vous. Et ces affrontements entre 2%, 3%, 95%, c'était les maréchaussées de l'époque coloniale aussi. Bon, quand on retrouve ces équations-là, ces pourcentages-là extrêmement réduits, et il y a une certaine peur. Sauf que le pays a changé, il y a une autre dynamique. Nous pouvons dire aussi, bon, pas d'autres corps armés que les PNH, les corps complémentaires vont être rajoutés. Dans la police nationale, on peut très bien avoir une base et marine pour permettre de contrôler des histoires de drogue, de ci, de ça, etc., d'aviation s'il le fallait, mais qu'on s'en tienne à la PNH sans jamais de retour à quelque chose qui ressemble ni de près ou ni de loin à la FADH débandée.
Okay. Même si la PNH arrive à un effectif que l'armée d'Haïti n'avait même pas connu.
Oui, complètement, parce que l'armée d'Haïti, avec un effectif de 7 000 seulement, avait quand même ce réseau de 40 000 chefs sections sous Quête Larosée, leurs adjoints. Donc au fond, la bourgeoisie se payait à rabais une grande armée de 70 000 personnes, comptant Macout et bourgeoisie, etc. Tandis que la République dominicaine se paye une armée de 80 000 personnes, mais il est obligé de la payer réellement, tandis qu'on payait seulement 7 000, et puis on disait à 50 000 autres, vivez sur le paysan, massacrez-le, pillez-le, et c'est ce qu'il faisait, il vivait sur le peuple, en termes directs, et plus on était profond dans les sections rurales, plus le chef de section vivait sur la paysannerie. Comprenez que la revendication de justice, le refus du macoutisme, le rejet de cette répression et de cette impunité et de cette corruption, elle était fondamentale, plus on rentrait profond à l'intérieur de la structure nationale. Alors, PNH versus FADH, bon, je peux prendre position très claire aussi là-dessus, enfin, je ne reste pas en dehors du débat. Pour moi, c'est PNH, et PNH avec les complémentarités, les corps spécialisés, etc. FADH, pour moi, c'est la fin, c'est la mort, c'est une inutilité, c'est même une dangerosité. Donc voilà, donc des positions très claires, et que chacun va devoir se définir par rapport à... Alors, c'est ça la force aussi des expectatives, c'est assez simple pour que chaque personne donne son point de vue. Chacun peut rentrer, discuter avec sa femme, dire « Chérie, qu'est-ce que tu penses de la PNH ?» C'est-à-dire que c'est rendu à ce niveau, et c'est à ce moment-là que les gens suivent le politique. Là, vous savez, les politiciens ont très mauvaise réputation. Mais avec raison. Parce qu'au lieu de parler de PNH et FADH, quand ils arrivent à ce niveau de simplicité, s'ils reproblématisent tout ceci en disant « Ah oui, la Constitution avait prévu une armée, donc il nous faut reconstituer, et la Constitution étant la loi mère, et puis on ne peut pas aller contre la loi mère, et puis là, ils disent « Bon, en fait, plus personne ne se reconnaît, et puis ça marche pas. » Et puis on dit « Bon, ils sont en train de tourner en rond. » Mais si ça arrive au niveau des issues, encore une fois, comme les dernières élections américaines sont en train de nous l'apprendre, descendre les problèmes les plus fondamentaux au niveau de chacun des voteurs. Et à ce moment-là, on avance.
Alors, Georges, on va accélérer un petit peu la cadence. Constitution et diaspora.
Bon, ben, Constitution et diaspora, deuxième expectative et chantier, qui lui renvoie à tout le champ diplomatique, ministère des Affaires étrangères, des Haïtiens hors pays, des coopérations, c'est toute la partie externalité de la souveraineté. Je reprends, coopération multilatérale-bilatérale, affaires étrangères, Haïtiens hors pays. Domaine dans lequel, entre autres, depuis deux ans, on n'a touché à rien. Hein? Ce qui n'est pas acceptable non plus.
Oui,
bon,
oui,
c'est assez dramatique. Mais cependant, tout ceci peut se résumer dans une expectative et un chantier. C'est celui de Constitution versus diaspora. En d'autres termes, on aborde toute cette question-là et toute la question liée à la diplomatie, diplomatie régionale, diplomatie de prépondérance, quelles sont les successions de prépondérance, diplomatie de diaspora. Tout ceci en disant diaspora versus constitution. Qu'est-ce qui arrive à la diaspora dans la constitution? Et vous avez touché à l'ensemble de ces points. Ou bedon, comme on dit à l'extérieur. Ou bien la diaspora rentre dans la Constitution et on accepte ce pays de 15 millions et puis on se redéfinit tout ce qu'on a dit. Ou bien on le refuse et on s'enferme dans notre enclos de 27 700 km² dans un quant à soi, dans un quant à nous, sur un vocabulaire nationaliste dessalinien, etc. Bon. Alors voilà encore une expectative simple et claire. Quelle place fait-on à la diaspora dans la nouvelle constitution et quelle est sa place? Et une fois ceci défini, tout le reste va rentrer en ordre. Tout ce qu'il faut faire des réseaux...
Mais Georges Anglade, enfin, je sais que ça fait longtemps que vous militez pour qu'on reconnaisse, pour qu'on comprenne à la fois le rôle et l'importance de la diaspora. Mais là, nous sortons d'un colloque, encore une fois, où le tourisme a été défini priorité des priorités du gouvernement. Et on n'a pas l'impression que la diaspora ait sa place, enfin, ait sa vraie place dans tout ce débat.
Mais que le tourisme se soit défini comme priorité des priorités, ben on attend voir les touristes, ou ce qu'ils vont sortir de ce qu'ils vont venir, et les investissements qu'il faut, et quel type de tourisme on va voir, quelle est la manière dont tout ceci va se faire, et est-ce que le tourisme peut être un point absolument important, mais... Et est-ce que c'est la manière de répondre aux externalités du pays, le rapport avec l'extérieur? Non, je crois que la Constitution et la question de la diaspora restent une des très grandes priorités en termes de chantier, d'expectative. Quant à la question du tourisme qui n'est pas secondaire, elle va suivre l'évolution de ce pays.
Alors là encore, parce que le temps nous fait la guerre, on va passer à impunité et corruption.
Bon, alors nous arrivons dans la mission structurelle. Et les trois missions structurelles dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire la justice, les flux et la maille, c'est-à-dire l'économie et la maille, quelle est la manière de mettre de manière le plus simple possible chacune des préoccupations? Eh bien, en matière de justice, comme nous disions, face aux chefs de section, parce qu'on oublie qu'il y avait 40 000 chefs de section sous Quête Larosée et les autres, c'est l'impunité et la corruption. Impunité dans le sens où on n'a pas encore réglé nos grands problèmes, des grands procès de ceux qui n'ont pas eu lieu sur la mort de X, Y ou Z. C'est la corruption de haut en bas qui en avait fait ce qu'on a eu à dire qui était une cour des miracles. Eh bien, impunité et corruption sont deux mots très simples, très accessibles, qui sont les revendications premières. On peut être dans la misère, on peut être dans la pauvreté, mais être respecté, n'être pas victime permanent de viols, de vols, d'insultes, d'humiliations. C'est-à-dire ce respect même dans la pauvreté. Donc c'est ce refus de l'impunité, que quelqu'un puisse impunément vous battre ou vous tuer. Et puis la corruption, refus de cette mentalité kleptocratique de la corruption de haut en bas. Ensuite, on avance, et l'entrepreneuriat, les flux qui étaient également dans le structurel, eh bien, l'expectative et le chantier le plus simple, c'est semer les transferts. En économie haïtienne, on a de très brillants économètres maintenant, on a de redoutables gens qui ont étudié les finances, l'économie partout dans le monde et tout. Eh bien, ce qu'on leur demande à tous ces gens, qu'ils entendent ce que dit le peuple, qu'ils entendent ce que dit un discours simple. Si nous avons 2 milliards qui viennent de l'extérieur et que ceci, c'est l'amorce de la pompe de l'économie nationale, et que ceci représente 40% de nos gains. Dites-nous donc comment faire pour que ce 2 milliards qui rentre ne s'évapore pas, ne soit investi au minimum. Comment semer, parce que c'est une semaille, comment semer ces transferts? Vous ne pouvez pas recevoir 2 milliards de transferts et n'en semer aucun qui le transforme. Alors comment fait-on? Les Mexicains ont fait du 2 pour 2. La partie investie, ils investissent, l'État met moitié, les autres mettent moitié. Il y a plein de formules qui permettent de retenir ces transferts pour en faire des outils d'investissement. On ne peut pas avoir les bras croisés, monter les coûts astronomiques de l'école, transférer immédiatement 500 millions là-dedans en République dominicaine parce qu'on achète des œufs à 1 million par jour et puis de la banane et puis des pots de cochon, etc., etc. Et aucune production nationale. On va acheter des ailes de poulet commandées à Miami, etc. Tout le monde est dans, maintenant, plus personne n'est dans la production, tout le monde est dans le commerce de transformation pour piquer sa part dans les transferts. Ne pas accepter aussi 12% pour transférer 2 milliards, c'est 120 millions. Qui sont enlevés de ces 240 millions, pardon, qui seraient enlevés de... etc. Non, et que l'État statue sur le niveau, le plafond du coût des transferts, que l'on sème ces transferts. Bon, alors, tous ces économistes distingués, on leur dit, mettez-vous donc à réfléchir sur les transferts. Allez sur Google, tapez transfert, vous allez avoir 250 articles qui ont été écrits par les Marocains, les Égyptiens, les Mexicains, les Français, etc. Travaillez, réfléchissez, adaptez-nous une économie des transferts que nous puissions comprendre. Alors là, je me réconcilierai avec la coloc. Je serai prêt même à me réconcilier avec ces rencontres où j'irai écouter ce qui se passe si on me propose comment faire pour en faire du capital accumulé. On ne peut pas avoir 2 milliards par année de quelque chose qui n'est pas éternel et ne pas savoir accumuler un peu, en faire quelque chose qui traverse
alors, comme le feu foulard. Alors, avant d'aller plus loin, vous dites bien qu'ils ne sont pas éternels, ces milliards.
Ah non, puisqu'ils nous viennent de l'extérieur et qu'on ne sait pas encore la dynamique, si on peut se retrouver un jour fermé dans l'enclos, hein, et etc., etc. Donc il faut qu'on ait une politique d'ouverture, travailler à ce que la porte soit toujours ouverte, travailler à ce que ce 2 milliards devienne 3, que ce 3 devienne 4, que ce 4 devienne 5. Et c'est encore et toujours de la diaspora que va venir l'essentiel des transferts. Vous pouvez, et ça je dis tout net et publiquement à ceux qui me parlent de tourisme, de grands bateaux, de croisiéristes. Combien chaque croisiériste va-t-il laisser dans ce pays? 6 000 croisiéristes par semaine? Très bien. Combien chaque croisiériste laisse? 100 $? 200 $? 6 000 par 200 $, ça fait combien?
Et c'est même pas 200 $.
Ok. Il y aura beaucoup de cartons en plastique, il y aura beaucoup de choses de ce genre, il n'y aura pas 200 $. Alors, dites-moi, De quoi parlons-nous? Quand nous avons cette diaspora, justement, créatrice et capable de ces transferts, de nous passer de 2 à 3 à 4 à 5, il y a des politiques pour que de la diaspora vienne 1 milliard de plus, vienne 2 milliards de plus, 25 milliards de plus. Donc, il s'agit de réfléchir. Alors, l'économie a son, et dans le chapitre des structures d'économie, c'est semer les transferts. Alors, que l'on fasse, que chaque futur candidat de 2011 développe ses positions sur le semage des transferts, disent ce qu'ils pensent, comment ils se réunissent. Je suppose que chaque groupe politique va se réunir, convoquer ses économistes, réfléchir là-dessus, présenter leurs issues, leurs visions, et que l'on enfin qu'on commence à voir un certain nombre de débats qui ne sont pas continuellement des interventions à la télévision et à la radio sur une niaiserie quelconque.
Parce que quelque part, ce que nous amène de bien et de bon la globalisation, ce sont bien ces travailleurs qui travaillent partout dans le monde et qui envoient de l'argent.
Qui envoient de l'argent, qui ont remplacé cette paysannerie sur le dos de laquelle on a vécu en tant que groupe dominant. Maintenant, c'est cette paysannerie, notre nouvelle paysannerie, bon, c'est les travailleurs à l'extérieur qui nous envoient ces transferts. Et nous ne sommes même pas l'un des pays ayant le plus gros des transferts, hein, parce qu'on n'a simplement jamais encore organisé, canalisé, respecté, valorisé ce genre de transfert. Au contraire, ils sont traités comme des vaches à lait, avec énormément de mépris.
Bon, là encore, c'est l'économie de la rente.
Ben oui.
C'est une habitude chez nous.
C'est ça. Envoie ton fric et puis ferme ta gueule.
Oui.
Sois belle et tais-toi. Bon, voilà. Mais sauf que la dynamique peut changer aussi. Bourgeois cité. Territorialité, c'est quoi la préoccupation du ministère des Ressources de la Terre, de la réforme foncière, de la sécurité alimentaire, le ministère de l'Agriculture comme le ministère de l'Intérieur? Mais écoutez, bougeons des cités. Aménagez-moi les cités dans lesquelles j'ai 9 dixièmes de ma population urbaine dans 10 ans. Aménagez-moi ce qui reste du foncier, du maillage, dans les beaux jardins, que je puisse m'y reconnaître et avoir cette réforme foncière de base pour aller vers l'autonomie alimentaire ou du riz pour tous ou quelque chose d'un genre. Et à ce moment-là, j'aurais compris. C'est-à-dire, les gens vont saisir...
Mais Georges Anglade, enfin, vous dites que 9 dixièmes de la population sera bientôt dans les cités. Mais ici, le projet, c'est d'ouvrir les bras et de leur dire ou bien partez ou bien ne venez plus. Quelque part, est-ce qu'un jour on vous écoutera? Parce que nous n'aimons pas les cités.
Comment peut-on ne pas aimer les cités? Ils sont là à côté.
Ah, ils sont là. Parce que ça aussi, j'ai l'impression que beaucoup ne sont même pas au courant qu'ils sont là.
Les cités sont là. Et nous avons 2 millions de personnes qui vivent dans les cités autour de nous, qui sont là à chaque fois qu'on
parce que quand on regarde la distribution de la justice, par exemple, il n'y a toujours pas un tribunal tout près. Il y a toujours... Enfin, il manque tellement de choses. Enfin, on ne fait tellement pas d'investissement. Même le minimum de ce qui aurait dû être n'y est pas. Alors, je me demande bien.
Bon.
Autant il y avait un chef de section qui s'occupait des cités, autant il n'y a toujours pas un commissariat.
Oui. Alors, à ce moment-là, il y avait un système de quadrillage des cités à niveau de un informateur, un espion pour 50 personnes au temps de la dictature. Maintenant, il n'y a presque plus rien. Donc, c'est ce qui a laissé la place à toutes les bandes et les bandits. Maintenant, Bourgeois cité, voilà un chantier, voilà une expectative qui est très claire et très compréhensible, à la fois pour toute la communauté rurale et à la fois pour tous les gens des cités. Attention, les cités, quand on sera 5 millions, ce sera 4,5 millions dans les cités et 500 000 hors cité, ce qui représente 9 sur 10. Hein. 9 sur 10, 9 personnes sur 10 seront dans les cités en dedans de 10 ans. C'est-à-dire tous ceux qui nous écoutent là, 99% de tous ceux qui sont en train de nous écouter, assisteront bientôt à ce pourcentage-là, à ce port au prince de 9e. Alors, si on n'aménage pas du tout, si on ne donne pas comme priorité à toute cette territorialité de la maille, les ressources de la terre foncière, qu'on ne refonde pas tout ça, pour avoir cette expectative et ces chantiers, vous voyez ce vers quoi nous allons. Donc, gouverner, c'est encore prévoir. Et les structures... L'analyse des structures, ce sont ces trois choses, donc. Impunité, corruption, semer les transferts, Bourgeois et cité. Voilà les thèmes fondamentaux qui doivent être mis à discussion, qui peuvent être mis à discussion, sous réserve qu'il y en ait d'autres qui proposent autre chose. Mais qui sont quand même, qui vont à l'essence de ce qu'on a voulu et qui est, si vous voulez, 9 mois plus tard, 9 mois après, le résultat du processus dans lequel nous nous étions engagés et que nous avons mené ensemble, chaque auditrice et moi-même, à coup d'hebdo chaque mardi jusqu'au 36e qui nous amène à celui-là.
La gouvernance, c'est l'obligation des résultats. Vous croyez qu'on peut trouver des résultats en proposant, en allant vers ces chantiers?
Les idées, en pénétrant les masses, deviendraient des forces matérielles. Ce que nous avons en train de faire, ce que nous sommes en train de faire comme toujours, c'est essayer de faire circuler des idées, essayer d'en discuter le plus possible avec l'espérance qu'elles seront récupérées et individualisées et assimilées par le plus de monde possible. Quand elles deviendront des forces matérielles, quand il y aura bien des gens qui auront accepté ça. Je ne rêve pas voir une grande manifestation de 100 000 personnes sur le champ de Mars criant « Semons les transferts, semons les transferts !» Ce serait superbe. Enfin, ils finiraient par comprendre. Mais je ne sais pas si ça arrivera, je ne le pense pas. Mais c'est un rêve. C'est-à-dire, c'est dans ce sens qu'un beau matin, si les expectatives sont très claires, on le verra, parce qu'on voit maintenant des grandes manifestations aux États-Unis disant « On sort d'Irak immédiatement !» Avant, il y avait plein de délais, on disait dans 6 mois, 2 ans après, 4 ans. Obama a dit le lendemain matin, immédiatement. Mais l'adverbe est devenu très fort. Là, maintenant, les gens peuvent défiler disant immédiatement, immédiatement. Mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est sortir de là, immédiatement, sortir du guépier, immédiatement. Voilà, on verra.
Georges Anglade, enfin, restons encore un moment sur les transferts, parce que l'argent, je crois, est nécessaire pour que tous ces changements se matérialisent. Qui aurait intérêt à ce que les transferts soient transformés, soient utilisés autrement? Parce qu'en fin de compte, le secteur bancaire n'a pas d'intérêt. Ceux qui reçoivent l'argent sans travailler n'ont pas intérêt. L'État est trop content parce que tout le monde reste tranquille, parce qu'il y a de l'argent qui arrive, qui est distribué tranquillement, et ça aide à l'apaisement social. Est-ce que quelqu'un, quelque part, aurait intérêt à ce que ces argents, ces montants astronomiques, deviennent des leviers pour passer à autre chose?
Oui, oui, parce que tout le monde finira par comprendre, et devrait comprendre dans ce pays, que plus le gâteau est large, plus il y aura de parts dans le gâteau. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? C'est une élite rachitique. Ce sont un capitalisme de penny. Enfin, c'est ridicule et misérable, la circulation monétaire dans l'enclos. C'est parce que maintenant, on est accoudé à cette immense diaspora, immensément ouvert sur l'économie, etc., que nous avons des flux d'importance. Des flux d'importance de 6 millions par jour qui rentrent en Haïti, des histoires de ce genre. Mais imaginez simplement que si le gâteau est plus grand, eh ben chacun aura une part plus grande. Si les élites haïtiennes, au lieu de 2%, finissaient par arriver à être 20%, quelle grande victoire! Et ce serait beaucoup mieux qu'il y ait 20%, il y aurait plus de mouvements démocratiques, plus de préoccupations, que nous arrivions à sortir 20-25% de la misère pour les passer à la pauvreté, ce serait aussi une très grande révolution. Mais ne rêvons pas, ça commence par semer les transferts. Il est de la responsabilité de l'État. Il sera toujours de la responsabilité de l'État de faire un certain nombre de choix et de les orienter. Et ne nous faisons pas de mots, payons pas de mots, puisque dans la gouvernance, nous avons vu quel était le mode de gouvernement que nous avons toujours choisi depuis 2 siècles. Quand on parle de tout ça, il y a une personne qui prend la décision, c'est le président de la République. Nous avons un mode de fonctionnement à une personne unique. Donc, si ce fameux président depuis 2 siècles que nous avons comme one man show prenait la décision de dire semer les transferts, eh ben, toute la machine irait dans ce sens-là. En d'autres termes, ce qui fait la faiblesse et ce qui a fait la grande faiblesse de l'État faible haïtien peut subitement devenir un État excessivement fort. Il faut et il suffit que le décideur unique et suprême prenne une position bien précise sur un certain nombre de choses et puis ça change. Hein. C'est ça. C'est... Bon,
voilà. Georges Anglade, on s'arrête un moment pour la pause publicitaire. Enfin, nous sommes bien obligés. Et on va revenir tout à l'heure. Je rappelle aux auditeurs que vous suivez les discussions sur les hebdos. Les hebdos, ce sont ces textes publiés par Georges Anglade tous les mardis dans Le Nouvelliste. Cette émission sera reprise jeudi entre 5h et 6h sur Magic 9 et dimanche, toujours à la même heure, entre 5h et 6h sur Magic 9. À tout à l'heure.